Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Les kamikazes islamistes du Sri Lanka étaient des jeunes gens de bonne famille, parfaitement insérés socialement. Ils ont tué plus de 300 personnes dimanche. Le reportage à Colombo de l'envoyé spécial de RFI, Sébastien Farcy. La Russie propose des passeports russes aux Ukrainiens du Donbass. L'Ukraine y voit une nouvelle provocation de Moscou. Trois jours après l'élection de Volodymyr Zelensky à la présidence ukrainienne, la correspondance de Claude Bruyot. Vladimir Poutine reçoit Kim Jong-un demain à Vladivostok. La Russie qui veut jouer sa partition dans la crise nord-coréenne en discutant avec le dictateur de Pyongyang. Nous en parlerons avec notre invitée, la chercheure Marianne Perrondoise. En France, Alain Finkielkraut, insulté et pris à partie par des activistes de la mouvance Antifa hier à Sciences Po Paris. Nous reviendrons sur cet incident avec David Ravier. 359 morts et 500 blessés. Le bilan des attaques islamistes du dimanche de Pâques au Sri Lanka ne cesse de s'alourdir. Étaient visés des chrétiens et des touristes occidentaux, cibles désignées par l'État islamique qui a revendiqué les attentats. Les autorités sri-lankaises ont identifié 8 des 9 kamikazes, des musulmans sri-lankais issus de familles aisées. Certains ont même fait des études en Occident. On est loin du cliché du djihadiste élevé dans la misère. Le reportage à Colombo de Sébastien Farcy.
La communauté musulmane du Sri Lanka est très ancienne. Ses premières implantations sur l'île remontent au 7e siècle. Ces musulmans sont aujourd'hui particulièrement prospères, comme le montre le profil des familles des terroristes. Ils ne souffrent donc pas, comme dans l'Inde voisine, d'une marginalisation économique ou sociale qui pourrait les inciter à se révolter violemment. Les seules tensions récentes ont d'ailleurs eu lieu avec la majorité bouddhiste et non avec les chrétiens. Pakiyosoti Saravamattu, directeur du think tank Center for Policy Alternatives, parle donc d'une idéologie terroriste importée.
Il y a eu plusieurs attaques en 2018 de bouddhistes extrémistes contre des musulmans et on aurait pu penser que si des musulmans allaient attaquer un groupe, ça aurait été les bouddhistes singhalais. Pourquoi est-ce qu'ils attaqueraient des chrétiens ? Dans l'histoire du Sri Lanka, il n'y a jamais eu de violence entre les chrétiens et les musulmans.
Des organisations musulmanes modérées avaient d'ailleurs alerté les autorités de la montée de groupes extrémistes comme le National Tawhid Jamaat qui aurait perpétré ces attentats. Mais aucune action n'a été prise et aujourd'hui ces musulmans craignent d'être assimilés aux terroristes.
Sébastien Farcy de RFI, envoyé spécial au Sri Lanka. C'était une figure de la mouvance islamiste algérienne. Abassi Madani est mort aujourd'hui au Qatar où il vivait en exil depuis 2003. Le chef historique du FIS, le Front Islamique du Salut, avait 88 ans. En 1992, Abassi Madani avait appelé à la lutte armée contre le pouvoir algérien. L'armée avait interrompu le processus électoral pour éviter la victoire annoncée du FIS aux élections législatives. L'Algérie avait alors sombré dans la décennie noire, une guerre civile qui aura fait 200 000 morts selon un bilan officiel. Trois jours à peine après la victoire du comédien Volodymyr Zelensky à la présidentielle en Ukraine, la Russie s'invite à nouveau dans le pays. Moscou annonce que les habitants du Donbass pourront, s'ils le souhaitent, disposer d'un passeport russe. Cela concerne les régions ukrainiennes contrôlées par les séparatistes favorables au Kremlin. Une provocation pour le gouvernement ukrainien, alors que la Russie défend un geste humanitaire. La correspondance à Moscou de Claude Bruyot.
Le Kremlin voudrait tester le nouveau pouvoir ukrainien qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Trois jours seulement après les déclarations de Volodymyr Zelensky, qui à peine élu annonçait son intention de relancer le processus de paix dans le Donbass, Vladimir Poutine signe donc aujourd'hui le décret qui doit faciliter l'obtention de la nationalité russe aux habitants des régions concernées, à Lugansk et Donetsk principalement. Alors que les Ukrainiens n'ont pas le droit d'avoir deux passeports, la partie russe raisonne officiellement en termes humanitaires. Il est vrai que de nombreux Ukrainiens de culture russophone restés dans le Donbass ont souvent une partie de leur famille de l'autre côté de la frontière en Russie. Mais cette disposition spécifique ne fait pas partie des accords de Minsk II, qui, bien que au point mort, reste le cadre légal auquel les parties, l'Ukraine et la Russie notamment, seraient censées se conformer. Et la réaction de Kiev émanant de l'équipe Poroshenko, encore aux affaires pour un mois, n'a pas tardé. Elle voit dans cette disposition administrative du Kremlin la continuation, je cite, de l'agression russe dans le Donbass. place en attendant une éventuelle intervention de Volodymyr Zelensky ou de son entourage.
Claude de Brouillot depuis Moscou. Alors, l'activisme diplomatique de la Russie, on le retrouve aussi dans le dossier nord-coréen. Vladimir Poutine reçoit demain à Vladivostok le maître de Pyongyang, Kim Jong-un. Une rencontre qui intervient 2 mois après l'échec du sommet Kim-Trump à Hanoï. Depuis, le climat entre les États-Unis et la Corée du Nord s'est nettement refroidi. On en parle avec l'invité de ce journal, Marianne Perron-Doise, chercheure à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Marianne Perron-Doise, pourquoi Kim Jong-un cherche-t-il l'appui de Vladimir Poutine dans son bras de fer avec Washington ?
Alors, je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose de très ostensible. Il y a visiblement une mise en scène de la part des deux côtés, du côté russe et du côté nord-coréen. Chacun veut se montrer aux côtés de l'autre. Et c'est vrai qu'il est important et très important pour Kim Jong-un de reprendre l'initiative après cette absence de résultat du sommet de Hanoï, où il n'a pas obtenu ce qu'il escomptait très sérieusement, un allègement des sanctions internationales pour entamer sa réforme économique. Donc il veut clairement montrer à la partie américaine qu'il a des options, qu'il n'a pas le dos au mur, et qu'en dehors de la Chine, il a un autre soutien puissant et influent au sein du Conseil de sécurité, où peuvent se discuter justement cette question de la politique à tenir avec la Corée du Nord sur les sanctions.
Et justement, s'agissant de la Russie, est-ce que Moscou a des intérêts économiques en Corée du Nord ?
Oui, alors Moscou veut montrer qu'il a un rôle à tenir en Asie et que rien, je dirais, d'important ne peut se décider sans lui. Et Moscou, effectivement, a des enjeux énergétiques concernant le développement de l'ensemble de la péninsule coréenne, notamment des connexions ferroviaires intrans-Corée qui viendraient rejoindre le transsibérien. Pour cela, eh bien, il faut passer par la Corée du Nord. Et il y a ce projet qui est très soutenu d'ailleurs par la Corée du Sud de gazoduc. Donc il y a quand même des arrière-pensées très très importantes pour le président russe, et non moins importantes pour le leader nord-coréen qui cherche une aide économique. Je pense que sur l'agenda, on va parler. Vous avez des 100 000 travailleurs nord-coréens qui sont encore utilisés par la Russie, qui sont sous coup des sanctions internationales, et qui donc devrait quitter la Russie, mais qui rapporte toujours des devises très importantes à la Corée du Nord. Donc je pense que Kim Jong-un essaiera de sonder Vladimir Poutine sur ce point important pour lui.
Marianne Perron-Doise, est-ce que l'on peut espérer que Moscou calme les ambitions nucléaires de Pyongyang ?
Je ne pense pas, et je très très modestement, je pense que le président Poutine est bien persuadé que la dénucléarisation dans l'esprit du leadership nord-coréen n'est pas une option envisageable. Par contre, ce que Moscou veut faire, c'est relancer des discussions diplomatiques, mais sous un chapeau multilatéral, pour essayer de casser le face-à-face entre les États-Unis et la Corée du Nord, qui ne mène à rien, puisque chacun est sur une ligne différente. Et donc il faudrait reprendre des discussions à plusieurs et peut-être adopter cette démarche un peu séquentielle, cette approche diplomatique du pas à pas où chacun fait un pas en direction de l'autre, que préconisent la Chine et la Russie, et non pas ce tout ou rien, c'est-à-dire cette attitude maximaliste des États-Unis qui veut la dénucléarisation immédiate et totale, ce qui est tout à fait inenvisageable pour la Corée du Nord. On le comprend très bien.
Et puis on peut imaginer aussi que Poutine a une arrière-pensée, c'est réduire l'influence américaine sur la péninsule coréenne.
Mais ce que voudrait éviter Poutine, en fait, c'est que ce problème nord-coréen donne un prétexte aux États-Unis pour renforcer leur posture militaire. Et je pense notamment à la défense antimissile, puisque au moment le plus fort de la crise, du face-à-face entre Donald Trump et Kim Jong-un, il y avait eu le renforcement de la défense antimissile avec un système TAD qui avait été installé en Corée du Sud, à la grande colère de la Chine, qui il voit une menace pour sa propre défense et à la grande inquiétude de la Russie. Donc effectivement, on voit que toute déstabilisation ou de nouveau un circuit de tension ou un face-à-face trop violent qui renforcerait encore une fois l'option militaire américaine, n'est pas quelque chose que la Russie envisage sereinement. Donc il y a cet élément qui reste très important aussi.
Marianne Perrondoise, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, veut un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Son gouvernement va présenter un projet de loi pour organiser la consultation d'ici 2021. En 2014, le non à l'indépendance l'avait emporté à 55%. Mais deux ans plus tard, les Écossais avaient largement voté contre le Brexit à 62%. Nicola Sturgeon veut une Écosse indépendante, membre de l'Union européenne. Quand la menace et l'insulte s'invitent à l'université française, il y a quelques semaines, des associations labellisées antiracistes avaient empêché la représentation à la Sorbonne d'une pièce d'Eschyle, les suppliantes, au motif que des acteurs blancs auraient pratiqué le blackface en se grimant en noir. Hier, c'est Alain Finkielkraut qui a été invectivé par d'autres militants antiracistes à Sciences Po Paris. Le philosophe était l'invité d'un débat organisé par l'association étudiante critique de la raison européenne. Mais à son arrivée, l'animateur de réplique a été bloqué et pris à partie par une autre association étudiante, Sciences Po en lutte, Institut Clément Méric. Il a fallu l'intervention de la police pour qu'Alain Finkielkraut puisse donner sa conférence. David Ravier, vous avez enquêté sur cet incident.
Nous avons essayé de joindre l'association Sciences Po en lutte pour avoir leur version des faits, mais ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. Néanmoins, dans leur communiqué, ils expliquent avoir voulu empêcher la conférence et la venue du philosophe parce que selon eux, Sciences Po réserverait un espace croissant aux discours qu'ils considèrent comme d'extrême droite, réactionnaire, raciste ou misogyne. De son côté, Alain Finkielkraut dit regretter de ne pouvoir se déplacer et de parler librement.
C'est une forme de censure, c'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez. On luttait dans les années 60 contre toutes les formes de censure, et aujourd'hui, par un étrange retournement, les étudiants les plus engagés politiquement militent pour la censure. Et je pense que c'est un phénomène qui va continuer.
Parmi les récentes prises de position de la part des associations étudiantes, on peut notamment rappeler l'annulation des suppliants d'Eschyle qui devait se tenir à la Sorbonne, parce que des associations antiracistes voyaient une forme de blackface dans la représentation des personnages. Si les deux événements ne sont évidemment pas liés, ils témoignent cependant d'une rupture du dialogue dans l'enseignement supérieur au profit de l'action, ce que déplore l'académicien.
Ils sont persuadés de lutter contre le fascisme renaissant, de lutter contre le racisme. Et c'est ça qui est épouvantable. Ils se croient vraiment antiracisme, alors que c'est un antiracisme dévoyé. Ils veulent faire la loi dans les universités et faire en sorte que leurs adversaires soient réduits au silence. Les combattre, c'est continuer à parler malgré eux.
De leur côté, les étudiants parlent d'un deux poids, deux mesures de la part de Sciences Po, qui aurait annulé la conférence d'une juriste palestinienne quelques semaines auparavant pour un motif sécuritaire. Preuve, selon eux, que tous les intervenants ne sont pas traités avec les mêmes égards.
David Ravier, merci. C'était le troisième rocker français de la période yéyé avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Dick Rivers est mort la nuit dernière, emporté par un cancer à l'âge de 74 ans. Dick Rivers, c'est une carrière d'un demi-siècle au service de sa passion, le rock'n'roll, comme on disait dans les années 60. Yann Bertrand.
Nom, Fornery, prénom, Hervé, Théâtre du Rêve, Nice, Baie des Anges, son Amérique au bord de la Méditerranée. Dick Rivers se l'a construit dans l'après-guerre au contact des soldats américains basés pas très loin. Le blues, le rock, Elvis, Chuck Berry, le jeune homme plonge à fond là-dedans et en sort un groupe, Les Chats Sauvages.
Est-ce que tu le sais, dis-moi ?
Les années 60, il y a eux et les chaussettes noires d'Eddie Mitchell, les succès s'enchaînent, les yéyés sont là, mais très vite, Dick Rivers part en solo. Il adapte beaucoup des chansons d'Elvis, de Gene Vincent, Roy Orbison, Ray Charles, et il parcourt les salles de France, l'Olympia, bien sûr, il est dans la bonne vague. La fin de l'époque yéyé marque un ralentissement dans sa carrière, moins de succès, moins de disques, mais toujours le même amour pour le rock'n'roll. Avec plus de 30 albums, il a été prolifique jusqu'au bout, ami d'Eddie Mitchell et bien sûr de Johnny Hallyday. Il avait fait de sa banane un signe distinctif. Ces dernières années, il avait intégré la tournée H Tendre et Tête de Bois et se produisait encore sur scène jusqu'à l'été dernier.
Voilà la voix de Dick Rivers disparue la nuit dernière à l'âge de 74 ans. Et puis on l'apprend ce soir, une autre disparition tragique, celle de Jean-Pierre Marielle, inoubliable interprète de Tous les matins du monde, film de 1991. Jean-Pierre Marielle, grande figure du cinéma et du théâtre français, est mort aujourd'hui à l'âge de 87 ans. C'est sa famille qui l'annonce. Nous reviendrons bien sûr longuement demain matin dans nos éditions sur France Culture sur la disparition de l'acteur Jean-Pierre Marielle. Le temps demain, pluvieux sur presque tout le pays. Ces pluies prendront un caractère orageux de la Normandie à la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi sur le centre-est. Température minimale de 7 à 14 degrés du nord au sud. Les maximales entre 14 et 20 degrés, jusqu'à 25 degrés en Alsace. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.